L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on pourrait dire que notre sujet est délicat. Eh bien oui, peut-être, mais pas au sens où on l'entend plus souvent. On va parler des professionnels du sexe. Alors, on ne les entend pas souvent, c'est vrai. Pourtant, elles et ils souhaiteraient aussi qu'on les regarde comme des personnes qui travaillent et pas tantôt comme des criminels, tantôt comme des victimes. On pourrait juste les considérer comme des personnes. Certes, le travail du sexe est un métier que beaucoup regardent de travers. Pourtant, il semble bien que ce métier soit indispensable, qu'il existera toujours et on pourrait même parler d'un travail social. Quoi qu'il en soit, les travailleurs et travailleuses du sexe ont un syndicat, le STRAS. Et puis, il existe aussi une association qui commence à s'implanter dans le Finistère, les Pétrolettes. Son représentant est avec nous aujourd'hui, c'est Billy. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous préciser l'origine de cette association, les Pétrolettes déjà ?
Ouais, c'est une association qui existe à Rennes depuis mai 2020, qui a été cofondée par Doris, une des cofondatrices, et puis Agathe, qui est travailleuse sociale, et qui répondait donc à l'arrivée de l'Amicale du Nid en Bretagne.
Alors, il faut préciser ce que c'est que l'Amicale du Nid, voilà, parce que elle est née en réaction, c'est ça, cette association.
Ouais, l'Amicale du Nid, c'est une association abolitionniste vise à faire arrêter, en gros, et à accompagner les personnes vers la sortie de la prostitution. Voilà, donc c'est une asso qui existe depuis de nombreuses années. Et nous, en tout cas, en Finistère, les Pétrolettes, on a commencé à monter cette antenne depuis octobre 2021.
Oui, c'est ça. Et donc à Rennes. Quel est le nombre d'adhérents, par exemple ? Enfin, est-ce qu'on sait
Je crois que c'est autour de 50. Il y a 50 adhésions avec plus ou moins de membres actifs, actives. Je dirais une quinzaine de membres actifs, actives. Il y a 3 salariés.
Ah oui, des salariés.
Ouais. Oui.
Ouais. Donc, c'est déjà une bonne implantation. Et alors, pour redéfinir les valeurs des Pétrolettes, alors déjà le nom, peut-être un petit mot du nom, pourquoi ça s'appelle Pétrolettes ?
C'est en référence aux pétroleuses, donc pendant la Commune. Et Pétrolettes, bah, pour les paillettes, Strass et paillettes, voilà.
Parce que voilà, j'ai fait allusion au Strass, qui est donc le syndicat des travailleurs. Alors, syndicat des travailleurs et travailleuses.
Syndicat du travail sexuel.
Ah oui, d'accord.
Le Strass.
Okay. Tout simplement. Alors, quelle est la différence, justement ? C'est là qu'on va préciser les objets aussi des Pétrolettes. Voilà, c'est pas la même chose qu'un syndicat.
Alors, le Strass, il existe depuis 2009 et vraiment, il lutte pour les droits des TDS, des travailleurs et des travailleuses du sexe. Les Pétrolettes, c'est une asso de santé communautaire, de développement communautaire, donc qui est faite par, mais pas que, parce qu'il y a des alliés donc, dans cette association, mais en tout cas avec et pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Et l'idée des Pétrolettes, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes qu'elle accompagne et sans forcément œuvrer à ce qu'elles sortent. Voilà, c'est vraiment de répondre à leurs besoins. Ça peut être sur des questions de juridique, de logement, des problèmes de papier, pour se déclarer aussi dans le travail, par exemple.
Oui, ça, on va y revenir plus en détail. Ouais, c'est ça,
ou juste pour avoir un réseau de TDS, parce que c'est un métier qui est stigmatisé, c'est pas facile d'en parler. Souvent, les entourages, ils sont pas au courant. Et donc là, d'avoir des personnes qui peuvent entendre et connaître le même parcours et les mêmes problématiques.
Et donc, en tout cas, dans les valeurs que vous affichez, les Pétrolettes, c'est voilà, vous n'êtes pas abolitionniste, vous ne faites pas non plus la promotion, on va dire, mais enfin, vous dites pragmatique, c'est ça. Enfin, comme je disais, ça existera toujours de toute façon, ce
ouais,
métier.
Pragmatique, c'est-à-dire, c'est de prendre en fait les existences et ce que vivent les TDS, et en fait, à partir de là, d'œuvrer à ce que leur. C'est, en fait, c'est pas en abolitionnant la prostitution, le travail du sexe, que les problèmes ils vont disparaître. C'est des problèmes qui sont bien plus grands que ça. C'est des problèmes migratoires, c'est des problèmes d'exploitation. Voilà, on pourra y revenir.
Oui, on reviendra aussi sur voilà, les origines de comment on en vient à pratiquer ce métier. En référence au NI, qui est donc une association qui clairement veut sortir les gens de la prostitution, mais en fait, ils ont obtenu carrément une loi, en fait. Enfin, c'est ça.
La loi de 2016, donc, un peu dans les grandes lignes, elle rend légale la pratique du travail du sexe. Elle élargit le délit de proxénétisme, mais vraiment élargi à l'extrême. Par exemple, admettons, imaginons, moi je fais du travail du sexe, mes colocs, s'ils bénéficient d'une manière ou d'une autre de l'argent du travail, ils peuvent être considérés comme des proxénètes.
Ah oui, en effet. Oui.
Voilà, ou si mes parents sont dépendants de moi, ils peuvent être considérés proxénètes. Ou si j'ai des enfants majeurs, mais encore à charge, ils peuvent être considérés proxénètes. Ça s'élargit aussi aux problématiques de logement. Si mon propriétaire est au courant que je fais du travail du sexe, il peut être considéré comme proxénète. Ou alors, il peut me virer sans préavis. Justement, ça permet ce genre de situation.
Alors il y a ça, et puis le fait que les clients sont...
La pénalisation
des clients. Qu'est-ce que pénaliser exactement ?
Eh bien, le fait d'acheter un service sexuel. Donc c'est puni par 1500 euros d'amende. Ça monte à 7500 s'il y a une deuxième une récidive, avec un stage, une espèce de stage de citoyenneté
Comme si on avait plus ses points de permis de conduire, quoi.
Voilà, exactement.
Oui. D'accord. Ça, c'est la loi 2016 qui instaure ça. Donc, évidemment, vous, votre association milite contre cette loi, on va en reparler. Mais en attendant, voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un panorama un peu des différentes formes de travail du sexe, en fait ? Enfin, alors, je ne sais pas si on peut faire le distinguo entre ce qui est choisi, pas choisi. Enfin, comment est-ce qu'on y vient, en fait, déjà ?
Alors, juste pour rebondir sur ce qui est choisi ou pas, plutôt, moi, je ne fais pas cette distinction-là, puisque... Voilà, quand je travaille à McDo, c'est pas un choix forcément. Voilà, dans une société capitaliste, c'est une stratégie de survie. Donc le travail du sexe, c'est aussi une stratégie de survie. Si moi je fais ce choix-là, c'est parce que, par exemple, je peux choisir mes horaires de boulot. Je suis pas dépendant d'un patron, par exemple. Donc ça, c'était donc sur la question du choix. Je trouve que c'est pas là où se pose le débat.
C'est pas pertinent, ouais.
Et en tout cas, pour reprendre la définition du STRAS, le syndicat du travail sexuel, ça regroupe la prostitution, donc le travail de rue ou le travail sur Internet, les webcams un peu érotiques, le téléphone rose, la domination, les massages érotiques, les acteurs et les actrices porno. J'en oublie forcément dans la liste, mais ça, c'est un peu tout ce qui, ce qui est érotico-porno sexuel.
Oui. Et donc, il y a un distinguo, par contre, entre des activités plus ou moins légales, finalement. C'est-à-dire que je pense qu'être acteur ou actrice porno, c'est tout à fait légal, c'est ça ?
Oui, je pense. Alors, je ne sais pas exactement comment elle est faite, la loi, en France. En tout cas, par exemple, aux États-Unis, c'est interdit le travail sexuel, enfin la prostitution. Mais par contre, être acteur ou actrice porno, faire des vidéos, c'est autorisé parce que c'est un cadre artistique, il y a une caméra. Donc voilà, je ne sais pas si en France, c'est un peu cette logique-là. Mais de toute façon, en France, il n'y a rien qui est interdit. Comme je le disais, tout est, on peut faire. Par contre, tout ce qui est autour est pénalisé.
Ouais, c'est
l'achat,
ça, en fait. C'est là-dessus que ça se joue. Et est-ce que vous avez une idée dans le Finistère, puisque vous vous implantez dans le Finistère, du nombre de gens qui sont concernés par le travail du sexe ?
Moi, j'ai pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. C'est assez difficile à chiffrer. Il y a pas vraiment non plus de chiffres au niveau national. Au niveau national, on parle de quelques 30 000 personnes qui font de la prostitution. En Finistère, il y a quand même eu une enquête donc, des assos abolitionnistes qui a estimé autour de 200-250 personnes en Finistère. Donc ça, c'est en regardant les annonces, en faisant les calculs, en supprimant les annonces qui étaient doublées. Voilà, c'est à peu près le chiffre qu'ils ont trouvé.
Et après, j'imagine que géographiquement, c'est plutôt les grandes villes ou est-ce que je me plante complètement ?
Alors, il n'y a pas de travail de rue en Finistère. Il n'y en a pas eu depuis très très longtemps. Enfin, c'est très très isolé en tout cas. C'est très très isolé. Donc, ça se passe sur les sites internet. Donc là, ça concerne toutes les villes. Bon, essentiellement les grandes villes, mais voilà.
Oui, c'est vrai qu'avec le numérique, ça a dû changer entre guillemets la profession quelque part.
Avec le numérique, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la loi de 2016, puisque les personnes qui travaillent ont peur que leurs clients se fassent pénaliser, il y a eu un gros mouvement depuis la rue vers les annonces sur internet. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui a été constaté. Voilà, comme en Suède.
Et en plus, avec la pandémie, j'imagine que ça a encore compliqué les choses. Enfin, pour vous, en plus, vous êtes en première ligne en termes de santé.
C'est ça. Et puis, comme les travailleurs, il y en a qui ne sont pas déclarés, donc qui n'ont pas droit aux aides de chômage partiel. Même quand on est auto-entrepreneur, je pense que ce n'était pas si évident que ça. Mais d'être quand même obligé de subvenir à ses propres besoins, malgré la pandémie. Les TDA, c'était les grandes oubliées dès le début de la pandémie.
Vous avez mentionné les statuts. Donc on a un statut, on est en général, quand on est déclaré travailleur ou travailleuse du sexe, on est en auto-entreprise, c'est ça, enfin.
Voilà, c'est ça, auto-entrepreneuriat. Alors c'est un peu compliqué puisque c'est assez précaire comme statut l'auto-entrepreneuriat. Et puis ça fait que les TDS sont obligés de payer leurs impôts comme toute personne qui sont en auto-entrepreneuriat. Mais à côté, les simples droits communs d'avoir accès à une couverture sociale digne de ce nom, c'est super difficile. C'est un peu quelque chose qui est pointé du doigt, notamment par le STRAS, qui considère que du coup l'État, qui est pourtant dans une lignée abolitionniste, est quelque part proxénète, puisqu'elle touche des impôts sur les pratiques, sur les sous des TDS, quoi.
C'est ça, oui, ils se privent pas de percevoir les impôts.
Et par contre, quand on n'est pas déclaré, on peut être pénalisé, enfin poursuivi pour travail dissimulé,
voilà.
ou pour des sommes d'argent, on peut avoir le fisc au cul.
Oui, enfin j'ai envie de dire c'est logique, à la limite. Mais si vous êtes déclaré comme micro-entrepreneur, du coup, vous êtes en libéral, enfin c'est quoi, vous avez un code URSSAF spécifique?
Ouais, c'est ça. Ah ouais. Alors moi je m'y connais pas trop dans l'association, il y a des personnes qui sont un petit peu plus formées sur aider les personnes à se déclarer. Et puis je sais que le STRAS a également trouvé a permis à mettre en place une protection sociale pour les TDS. Donc
spécifique, une sorte de mutuelle en fait.
Oui, une mutuelle mutuelle a accepté de couvrir les TDS déclarés. Ça a été, je crois, la croix et la bannière pour trouver ça.
Mais si vous avez réussi, ouais, grande victoire.
Voilà,
ouais.
C'est ça.
Ouais, ouais. Donc, pour en revenir au Pétrolette elle-même, puisque vous disiez tout à l'heure que c'est vraiment une association qui est là pour. Comment dire, communautaire, qu'est-ce que ça veut dire communautaire? Enfin, c'est la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe ou c'est autre chose?
C'est la communauté des... Alors la santé communautaire, elle est arrivée... ça s'est fait connaître avec l'arrivée du sida en France et du coup les principes un peu de père aidant, c'est que c'est des personnes concernées qui peuvent aider d'autres personnes dans des situations similaires. Et puis également dans le sens... de pouvoir s'appuyer sur un réseau partenarial et de créer une communauté, un réseau, des partenariats assez forts pour qu'on puisse réorienter selon les besoins des personnes. Moi, je le vois un peu sous ces deux angles-là, le santé communautaire, développement communautaire. D'avoir vraiment la paire aidance, les personnes concernées qui s'écoutent et qui s'accueillent et qui s'entraident. Et puis, de pouvoir s'appuyer sur le planning familial, aide, le CEGID, les
CPES. C'est quoi tout ça, le CEGID?
Alors, CEGID, c'est le centre de dépistage des maladies infectieuses et transmissibles, genre dans les CHU en général, dans les hôpitaux.
Aide, c'est l'association Aide SIDA.
Lutte contre le VIH et les hépatites. Les CPEF, c'est les centres de planification et d'éducation familiale.
D'accord.
Voilà, un peu d'avoir un réseau fort de professionnels et d'associations vers qui on puisse s'orienter.
Qui vous êtes déjà, de toute façon. Enfin, en tout cas, quand vous vous adressez à ces structures, elles vous aident, en général.
On a formalisé, en tout cas, on s'est rencontrés, on s'est présenté en tant qu'asso qui se monte dans le Finistère pour vraiment se visibiliser et qu'on sache vers qui on puisse orienter.
Parce que ce qui manquait, vous diriez, c'est peut-être justement aussi une entraide entre personnes, enfin, entre travailleurs et travailleuses du sexe, c'est-à-dire que c'est un monde atomisé, sans doute, j'imagine.
En tout cas, il n'y a jamais eu d'assaut de santé communautaire en Finistère, même en Bretagne. Il y en a une à Nantes qui s'appelle Paloma. Mais c'est ce qui manquait, oui, effectivement, d'avoir que le nid comme option, alors que leur perspective, c'est de vouloir accompagner vers la sortie. D'ailleurs, dans la loi 2016, j'ai oublié d'en parler, mais il y a un volet sortie, de la parcours de sortie, qui est assez ridicule. Il nous donne une somme de 330 euros par mois qui est non cumulable avec d'autres aides. Il nous donne des papiers pour les personnes.
Ah oui, juste on doit se contenter de 330 euros.
Voilà, ce qui est moins que le RSA, c'est ridicule et c'est pas cumulable. Il nous donne des papiers, 6 mois renouvelables 3 fois, alors que la plupart des formations, par exemple, demandent des papiers qui ont au moins un an.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc c'est un peu... on nous apprend le français pour les personnes qui en ont besoin et tout. C'est assez dérisoire.
Et alors, on le lit aussi en filigrane quand même, c'est que les travailleurs et travailleuses du sexe sont des personnes qui sont peut-être plus fragiles quand même en majorité. Si vous voulez les aider, il y a aussi une raison, quoi. Vous parliez, vous avez évoqué les migrations. C'est quoi le parcours souvent de ces personnes?
Il n'y a pas de parcours, type. J'ai emmené, les auditeurs et les auditrices vont pas voir, mais il y a des revues, des bouquins et des bandes dessinées qui existent.
On mettra les
de témoignages et de parcours de TDS. Le plus important, c'est vraiment de lire, en fait, ces livres-là, puisqu'il y a, autant de situations que de TDS. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les problèmes à l'arrivée sur le sol français, par exemple, de ne pas avoir papier, tout ça, c'est des choses qui sont qui facilitent beaucoup plus l'exploitation.
C'est ça.
Mais que ce soit dans le travail du sexe ou dans d'autres, dans les champs par exemple ou dans les usines.
Ah oui,
c'est,
bien sûr.
C'est les situations précaires qui mènent à ça. Donc si on résout ces problèmes-là, si on donne des papiers à tout le monde, ça fait partie des revendications, des papiers pour tout le monde, un logement pour tout le monde, ça va résoudre beaucoup des problèmes d'exploitation qu'il y a dans le travail du sexe.
Oui, c'est ça. Et alors vous diriez quand même que la majorité des personnes qui sont dans ce milieu-là sont quand même pas exploitées, enfin sont... Quelle est la situation en termes de violence ou de ce que vous en savez? Parce qu'évidemment, vous n'avez pas de statistiques. Quoi.
Ouais, il n'y a pas de statistiques. Les abolitionnistes ont des statistiques, mais qui sont basées uniquement sur le nombre de travailleuses sans papier qui font le travail du sexe. Donc c'est un raccourci assez rapide, un peu trop facile, très stigmatisant aussi. En tout cas, nous, l'association Les Pétrolettes, elle s'adresse à tout le monde. Et puis... il y a des personnes qu'on ne pourra jamais toucher, puisque les réseaux, à cause de la loi 2016, il y en a qui sont mais planqués. Je ne sais même pas comment est-ce que les clients arrivent à joindre des TDS qui sont dans des réseaux comme ça. Et si nous, on n'arrive pas à les toucher, faut pas se leurrer, les assos comme le NID n'y arriveront pas non plus. C'est...
Et alors, on l'a évoqué aussi pareil, un petit peu au fil de l'interview, mais est-ce qu'on peut récapituler un peu toutes les... comment dire, ouais, les violences, enfin tout ce que... ce que peut subir potentiellement un travailleur ou une travailleuse du sexe. À quoi est-ce que vous êtes exposé en fait,
voilà. Bah, et qui ont été amplifiés par la loi de 2016.
Ouais.
Donc il y a depuis la loi de 2016, il y a les négociations des pratiques. En fait, le rapport de force, il est en la faveur du client, donc il se permet de négocier les pratiques, il se permet de négocier le port du préservatif. Là, je fais dans les grandes lignes hein, ce que les violences que les TDS peuvent subir et qui peuvent être réglées par des lois décriminalisantes. Après, les violences, elles se vivent aussi dans toutes les sphères de la société. Quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà, ouais, c'est pas propre aux TDS, mais c'est sûr que les lois, ça met... Voilà, ouais. Ça souligne encore plus certaines violences.
C'est ça. Alors, donc, il y a les clients qui négocient, on va dire. Quoi d'autre encore? Le proxénétisme, je suppose.
Bah, le proxénétisme, il a été, la définition du proxénétisme, elle est beaucoup trop large pour qu'on puisse en dire quelque chose. Comme je le disais, mes parents, ils pourraient être proxénètes, mon proprio pourrait être proxénète. Si je demande à quelqu'un de... par exemple, les travailleuses qui parlent pas français, mais qui ont des annonces sur Internet, il faut qu'elles embauchent quelqu'un pour rédiger les annonces et faire le secrétariat. Et ben, ils peuvent être considérés comme des proxénètes pour ces travailleuses-là. Voilà. Donc, c'est les lois, en fait, qui sont une réelle violence.
Oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi des problèmes des réseaux, comme on dit, dans le Finistère, peut-être pas, mais il y en a ou...
Ça, je sais pas, ouais. J'imagine. Après, ouais.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, certaines personnes sont carrément marchandisées, clairement.
Oui, voilà. Oui, et on est contre la traite. Et l'ennui, c'est qu'il y a déjà, il y a déjà des lois qui existent contre la traite des êtres humains qui ne sont pas obligées d'avoir un impact sur la pratique des travailleurs et des travailleuses qui sont hors réseau, hors traite.
C'est ça. Alors, vous menez donc, là, vous êtes implanté depuis octobre. Qu'est-ce que vous avez fait déjà dans le Finistère, les Pétrolettes?
Alors, on a fait le 17 décembre, qui est la journée mondiale contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. On a fait un rassemblement à Liberté, à Brest. Là, on est beaucoup dans une phase de rentrer en contact avec des potentiels partenaires et puis de se présenter auprès des élus. On est trois pour le moment dans le Finistère à être motivé à monter cette antenne, donc c'est beaucoup de boulot.
Vous n'avez pas de locaux encore?
On n'a pas de locaux, ouais, d'ailleurs c'est un petit...
Voilà, on va lancer l'appel.
Si vous avez des locaux à nous prêter ou à nous louer.
Plutôt à Brest ou ça peut être à Quimper ou ailleurs éventuellement
Plutôt à Brest. Ouais. À Quimper, on est en train de voir pour développer un temps d'écoute pardon, et d'accueil qui ne soit pas uniquement orienté TDS, qui soit plus globalement sur sexo-affectif, contraception, voilà.
Ah ouais, ouvert à tout le monde, quoi.
Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais dans l'objet de l'association à Rennes, nous, en Finistère, on se concentre vraiment sur le développement communautaire avec et pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Mais l'objet de l'asso à Rennes, c'est une asso de lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes minorisées avec et pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, il y a un peu ces deux volets-là.
Ah oui, c'est ça, il y avait un deuxième public, entre guillemets.
C'est ça. Ouais, il y a des actions qui sont menées dans le quartier de Maurepas, à Rennes, qui sont des temps d'écoute et d'accueil de jeunes femmes ou de personnes... Mmh. Voilà.
D'accord. Et donc, sur les actions que donc, vous menez, bon, des actions de visibilisation, on va dire, comme des manifs, est-ce que vous avez... Il y a des tournées qui sont faites à Rennes. Est-ce que vous, bon, vous êtes que trois, évidemment, mais est-ce que vous envisagez ce type d'action aussi? Comment est-ce que vous pouvez aller au plus près de votre public?
On envisage... On a discuté de faire des tournées, effectivement. Après, comme il n'y a pas de travail de rue, c'est un petit peu plus compliqué. Les principales actions qui sont faites pour aller vers les TDS en Finistère et même en Bretagne, c'est sur les plateformes d'annonce, donc de dire qu'on existe.
Tournée numérique, en
voilà,
fait.
Voilà, exactement.
Quelque part, ouais.
On appelle ça outreach.
Et vous pourriez organiser aussi des quand vous aurez des locaux, évidemment, vous pourriez organiser des événements même conviviaux
Ouais, là, l'objectif, une fois qu'on a un local, ou même si on arrive à louer des salles ponctuellement auprès de la mairie, c'est de faire une à deux permanences par mois à Brest, une permanence par mois à Quimper, et d'avoir des moments en non-mixité au moins une fois par mois dans chacune des deux villes.
Et alors pourquoi, expliquez-nous pourquoi des moments en non-mixité
Comme je le disais tout à l'heure, c'est pour se rencontrer entre personnes concernées, pouvoir échanger sur les pratiques. C'est de pouvoir s'empouvoirer aussi sur ça, de pouvoir vider son sac. Parce que si on habite encore chez ses parents et qu'on rentre le soir, on ne peut pas parler de sa journée de travail comme on pourrait avec n'importe quel autre métier. Donc c'est de pouvoir créer des liens forts et solidaires et d'échanger sur ces pratiques-là.
Oui, donc il y aurait ça, cette écoute, ces échanges de pratiques, donc une aide sur le plan de la santé, c'est ça? Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, en plus de ce qui existe déjà
Sur le plan de la santé
Ouais, qu'est-ce que vous pouvez proposer
D'orienter vers nos partenaires, d'inciter au dépistage tous les trois mois, de dépistage de toutes les IST, de proposer la PrEP, qui est un médicament qui protège du VIH, de parler de contraception également... de pouvoir orienter. Nous, on n'est pas encore totalement formés, mais de toute façon, il y a des personnes qui sont formées autour de nous.
Oui, c'est
le
ça.
Planning,
ouais.
Aide, le Cégide. Donc, c'est plutôt de montrer quelles sont les possibilités de distribuer des préservatifs, du gel. Ça, c'est quelque chose qui est distribué aussi dans ces autres organismes, mais qu'on pourra faire nous aussi.
Mm-hmm. Donc, santé, convivialité, on le disait, et puis juridique. Alors là, qu'est-ce que ça peut être
Ça peut être réorienter si les personnes ont des galères de papier. Ça peut être, on a aussi des contacts avec des travailleurs sociaux s'il y a des problèmes de logement, par exemple, ou de réinscription dans des, universités ou des choses comme ça. Ça peut être, c'est très très varié. Ça peut être aider à déclarer également, à se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. En tant que travailleur du sexe.
Ouais, surtout quand on est d'origine étrangère et qu'on ne sait pas trop comment ça marche, l'administration française, même si c'est relativement simple là, pour le coup. Alors, en cas de violence, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Qu'est-ce que votre association peut faire concrètement?
Réorienter vers le planning familial qui est formé sur l'accueil et l'écoute et la réorientation aussi des personnes victimes de violence. On a également des outils qui restent vraiment au sein des communautés de travailleurs et travailleuses du sexe, qui ne doivent pas sortir de ces communautés-là. C'est des outils. On peut aussi former en autodéfense. Il y a à Paris le SWAG, Sex Workers Autodéfense Group, qui forme les TDS aux pratiques d'autodéfense propres au TDS, quoi.
À ce travail-là, quoi.
Ouais.
D'accord. Ah ouais. Et là, vous avez déjà mené des actions. Vous prévoyez encore une action militante, au moins, mais même davantage sans doute. Vous pouvez nous en parler un peu?
Ouais, le 13 avril, c'est l'anniversaire. Ça fera 6 ans que la loi est passée en France. Donc il y aura, je pense, une manifestation, très probablement à Brest. On en dira plus dans les jours qui viennent.
On se tiendra au courant. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas de TDS, mais pour vous aider quand même, pour aider les pétrolettes, donc votre association?
Alors, vous pouvez donner des sous, si sur le site internet lespétrolettes, enfin pétrolettes.org. Vous pouvez,
donc ça, c'est le site commun avec l'antenne de Rennes, c'est ça?
Il y a un onglet don et l'OASSO. Vous pouvez relayer la parole des TDS, des organisations, des associations. Vraiment, ça, c'est une partie aussi que nous, on fait de plaidoyer et de militantisme pour la décriminalisation du travail sexuel. Donc, c'est de relayer nos paroles, de ne pas vouloir être les sauveurs et les sauveuses des TDS, mais voilà, de soutenir et de relayer, s'informer, se renseigner. Si vous avez un local, nous le donner.
Et ça, ce sera donc pour le Finistère. Après, je ne sais pas si il y en a d'autres aussi dans les Côtes d'Armor, enfin ailleurs en Bretagne, peut-être, à part à Rennes, des pétrolettes aussi.
Non, pas encore. Là, on est dans deux départements pour le moment.
Bon, bah c'est déjà un début. Eh ben, merci beaucoup Billy d'être venu nous expliquer
avec
tout
plaisir.
Ça. Et puis ben, on suivra vos actualités, puis on vous retrouvera à l'occasion quand il y aura.
Super, le 13 avril.
Bah déjà.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup.